territoire possède la radio et la télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off
constitue un outrage sexiste le fait d'imposer à une personne tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui soit porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
Le harcèlement de rue, ce sont les comportements adressés aux personnes dans les espaces publics et semi-publics, par exemple des bars ou les transports en commun, ces comportements visant à les interpeller, verbalement ou non, en leur envoyant des messages intimidants, insistants, irrespectueux, humiliants, menaçants, insultants, et en raison de plusieurs choses, comme par exemple leur sexe, leur genre, leur orientation sexuelle, etc. Ne commentez pas les tenues des gens à haute voix dans la rue. En bien comme en mal, alors c'est sûr, c'est plus sympa en bien, sauf quand ça me sexualise à outrance et que j'ai rien demandé.
Il y a une grande différence entre la drague et le harcèlement. Cette différence réside dans le consentement.
Stop harcèlement de rue. C'est le nom de l'assaut présenté par vos invités d'aujourd'hui pour le 4e épisode de notre série contre les VHSS, violence, harcèlement, sexiste et sexuel, série d'émissions qu'on vous propose autour du Festival au quart de tour, organisé par Radio Béton, avec cette question centrale, comment mieux faire la fête tous ensemble ? Comment faire en sorte que le festival, ce soit la teuf pour tout le monde ? Et au-delà de la teuf, c'est en fait une véritable question politique. Salut les amis, c'est JBD, c'est La Voix Off. C'est avec plaisir que nous accueillons 4 membres de l'association Stop Harcèlement de Rue, rencontrés sur Au Quart de Tour 2023. Bienvenue au 4M. Bonjour Marie-Line.
Bonjour tout le monde.
Bonjour Marie.
Bonjour tout le monde.
Bonjour Merlin.
Bonjour tout le monde.
Et bonjour Milou.
Bonjour.
Merci aussi par avance à mon amie Rosen, qui va nous prêter sa voix pour lire quelques textes. Bonjour Rosen.
Bonjour.
Cette émission a donc été enregistrée à Tours, région centre, mais aurait très bien pu être produite n'importe où, puisqu'il sera question d'espaces publics et semi-publics, et ça, il y en a à peu près partout, comme par exemple les festivals, bars et autres lieux festifs, mais pas seulement, on va parler d'espaces publics en général. Tours sera donc cité à titre d'exemple, puisque Stop Harcèlement de Rue, qui est une asso nationale, mène de nombreuses actions dans cette ville, comme être présente sur le festival Oka, ou encore avec le dispositif Angela, sorte de label signalant des lieux semi-publics safe, comme par exemple certains bars de la ville. C'est donc parti pour une heure de conversation à bâton rompu avec les 4M, Stop Harcèlement de Rue. Avant que nous nous lancions, les amis, dans cette conversation, rien de tel que d'ouvrir un dictionnaire, en fait, de quoi parle-t-on ?
Harcèlement. Nom masculin. Action de harceler. En acte ou en parole. Harceler. Verbe transitif. Soumettre sans répit à de petites attaques.
Autre définition trouvée sur un site gouvernemental.
Le harcèlement se définit comme une violence répétée qui peut être verbale, physique et ou psychologique. Le phénomène se prolonge parfois en ligne. On parle alors de cyberharcèlement.
Harcèlement est un mot qu'on entend beaucoup dans le discours médiatique. Ce dont je me souviens, c'était ces affaires dans l'entreprise Orange, où des gens se suicidaient à tour de bras, etc. C'est là que les médias se sont mis beaucoup à parler de harcèlement. On parle beaucoup de harcèlement scolaire. Donc c'est une notion qui a envahi nos vies. C'est un mot qui recouvre en fait tellement d'autres réalités. Qui veut se lancer pour une définition ? Milou, tout le monde te regarde, je crois que c'est pour toi.
Alors le harcèlement de rue, selon en tout cas notre association, ce sont les comportements adressés aux personnes dans les espaces publics et semi-publics. Semi-publics, ça peut être par exemple des bars ou les transports en commun. Et ces comportements visant à les interpeller, verbalement ou non, en leur envoyant des messages qui sont intimidants, insistants, irrespectueux, humiliants, menaçants ou insultants, et en raison de plusieurs choses, comme par exemple leur sexe, leur genre, leur orientation sexuelle, etc. Ça, c'est la définition, en tout cas, qu'on en a, nous, dans l'association. Il existe d'autres définitions, évidemment, du harcèlement de rue. Et à la base, c'était une expression, en fait, qui vient d'une professeure d'anthropologie américaine. C'est Michaela Di Leonardo, en 1981, qui a théorisé, en fait, vraiment le harcèlement de rue pour la première fois.
Marie.
Le harcèlement de rue peut revêtir différentes formes. On pense souvent à tout ce qui est sifflement, déshabillage du regard, les injures, les commentaires sur l'apparence, Ça peut être aussi des exhibitions publiques, des menaces, être suivi, la filature, voilà. Le frotteurisme, ça peut être divers et varié. Ce qu'il faut mettre en avant aussi, c'est les conséquences que ça a sur les personnes qui en sont victimes. Donc la répétition et la violence des comportements, ça génère un environnement qui est hostile aux personnes qui les subissent et qui mettent alors en place de nombreuses stratégies d'évitement. Sortir avec un casque, des écouteurs, faire semblant d'être au téléphone. En sciences humaines, on parle de trois axes quand on parle de harcèlement de rue. Donc ça peut être la distance inappropriée, donc une proximité physique de la victime, parfois jusque dans les magasins. Une insistance inappropriée, donc des comportements de l'auteur qui ne prennent pas en compte le refus de la personne. Et le contenu de l'interaction verbale qui est inadapté, donc du contenu agressif, hostile et ou sexualisant.
Tu mentionnais notamment commentaires sur l'apparence physique d'une personne. Mais on inclut là-dedans aussi des commentaires faussement laudateurs. Ouvrez les guillemets, oh mademoiselle, t'es trop jolie. C'est positif ce que je dis. Non, c'est aussi inapproprié.
C'est aussi inapproprié dans l'idée où c'est des choses qu'on ne demande pas de recevoir. C'est des commentaires qu'on n'a pas demandé. C'est un avis que quelqu'un d'extérieur nous donne sur nous, alors même qu'on ne l'a demandé à personne et que parfois on peut être juste dans la rue en train de marcher et ne pas vouloir d'interaction sociale, qu'il soit soi-disant positif ou non.
Comme on dit, ton avis dans ta tête.
Quitte à redire ce que Milou et Marie ont déjà très bien expliqué, mais la pédagogie, c'est l'art de la répétition. Voilà les définitions de harcèlement de rue données sur le site de Stop Harcèlement de Rue. Premier point, la différence entre drague et harcèlement, c'est le consentement. Rosane.
Le harcèlement de rue, ce sont des comportements adressés aux personnes dans les espaces publics et semi-publics, visant à les interpeller verbalement ou non, leur envoyant des messages intimidants, insistants, irrespectueux, humiliants, menaçants, insultants en raison de leur genre, de leur orientation sexuelle, de leur couleur de peau, de leur situation de handicap, sifflements, commentaires, interpellations ou insultes, voire les attouchements. Ces comportements, qui touchent principalement les femmes, se déroulent dans la rue, les bars, les transports et les espaces publics. Leur caractère répétitif et violent génère un environnement hostile envers les personnes concernées et porte une atteinte inacceptable à leur dignité et à leur liberté. Ce n'est pas de l'humour. Ce ne sont pas des compliments, et ce n'est certainement pas de la drague. Nombre de femmes apprennent à baisser la tête, ne pas répondre, changer de trottoir. Elles tentent d'éviter ces réactions anxiogènes en cessant de sourire en public, en s'habillant différemment, en ne prenant plus les transports en commun de nuit. Bref, elles se sentent moins en sécurité, moins autonomes. Par crainte, elles deviennent moins ouvertes aux vraies rencontres, moins encline à aller draguer ou se laisser draguer. Et c'est bien dommage. La drague et le harcèlement de rue ne sont pas la même chose, et il est anormal de les confondre. La drague se construit à deux, là où le harcèlement est la responsabilité d'un individu qui ignore volontairement l'absence de consentement de son interlocuteur. Non, nous ne sommes pas contre la drague lorsque celle-ci est respectueuse. Draguer n'est pas un délit. Il n'y a pas de mal à trouver une personne séduisante et à le lui faire savoir, mais uniquement si c'est fait avec respect et bienveillance.
Une question un peu chelou. Harcèlement implique, je crois, une notion de répétition. Côté victime, c'est régulièrement subir des propos et des actes de la part d'un ou de plusieurs harceleurs. Mais cela implique-t-il que le ou les harceleurs sont toujours le ou les mêmes personnes ? Ou, pour le demander très maladroitement, au-delà de certains individus qui harcèlent, le harcèlement est-il aussi le fait d'une grande partie du corps social ? Et je sais que c'est absurde de le demander comme ça, mais pourrait-on parler de gens qui harcèlent pour la première fois ?
Alors nous, le harcèlement de rue, on appelle ça harcèlement. Quand je dis nous, c'est pas juste nous, c'est toutes les assos nationales et internationales qui travaillent sur le sujet qui appellent ça de la même manière. C'est que c'est en fait un continuum de violence divers et variés, de comportements, de discrimination, d'agression dans l'espace public. un continuum pour les personnes qui en sont victimes. Les personnes qui en sont victimes, ça va être les personnes sexisées, ça va être les personnes queer, ça va être les personnes racisées, ça va être les personnes handicapées, etc., etc. En fait, toute personne minorisée. La liste est extrêmement longue. Et c'est elles qui vont subir vraiment un phénomène de harcèlement puisque ça leur arrive régulièrement. Et du coup, on est vraiment sur une ambiance générale de harcèlement de rue, c'est-à-dire que l'espace public nous est hostile. De diverses manières, évidemment, ça dépend des personnes, ça dépend peut-être des lieux, de certaines villes. Toujours est-il que l'espace public globalement est plutôt hostile aux personnes minorisées par ce phénomène notamment de harcèlement de rue. Donc le harceleur, il peut avoir harcelé pour une première fois et il ne va pas se considérer comme un harceleur. Et c'est une question importante parce que les personnes vont vraiment minorer cet effet, cette gravité, en disant « mais moi c'est bon, c'est vrai que ça m'est arrivé une fois, je lui ai peut-être dit une injure dans la rue, mais c'est bon, déjà j'étais bourré et puis c'était qu'une fois, va s'en remettre. » En oubliant que derrière, lui c'était une fois, et puis celui d'avant aussi, c'était peut-être la première fois, celui encore avant, etc., etc. En oubliant qu'ils font partie d'un système qui est un peu plus grand qu'eux, dans lequel ils participent pleinement.
Stop harcèlement de rue. Est-ce que votre action se limite, si j'ose dire, parce que c'est déjà quand même bien assez vaste, à l'espace public ou semi-public ? Ou est-ce que vous pouvez aussi agir, par exemple, dans le domaine de l'intimité ? Merlin.
Alors, notre action concerne les espaces publics et semi-publics. Uniquement, il s'agit en effet d'une petite proportion des violences sexistes et sexuelles. On peut démontrer que la plupart des violences sexistes et sexuelles se passent dans les cadres privés, au travail, dans le cadre du domicile, dans le cadre conjugal. La pertinence d'avoir une action militante sur le harcèlement de rue, c'est justement de questionner les libertés que chacun a dans l'espace public et démontrer que c'est aussi une lutte qui ne concerne pas seulement les femmes, mais toutes les personnes minorisées et discriminées. C'est donc une réflexion générale sur l'espace public, les libertés qu'on a dans l'espace public. En effet, il y a des différences de sentiments, des différences d'ambiance dans la rue. On n'a pas tous la même façon de vivre la rue, de vivre l'espace public. Et militer sur le sujet du harcèlement de rue, justement, met ça au centre et souligne la différence de perception qu'on a de soi-même et des autres dans l'espace public. De sorte que des personnes très à l'aise et très privilégiées vont se sentir avec un sentiment d'impunité suffisamment fort pour aller importuner ou draguer, comme ils vont se qualifier eux-mêmes dragueurs de rue. Et d'autres personnes vont absolument voir la rue ou des trajets comme des espaces qui ne sont pas safe, et à chaque fois donc avec des mesures d'évitement, des dispositifs pour calculer l'heure à laquelle on sort, qu'est-ce qu'on a dans son sac à main pour réagir si jamais on fait telle ou telle rencontre, ou même des stratagèmes comme mettre sa musique dans les oreilles systématiquement, ou juste porter ses écouteurs sans même mettre de musique, mais juste porter des écouteurs pour signifier qu'on ne veut pas être importuné. Voilà, il y a vraiment des différences de se sentir dans l'espace public, de vivre l'espace public, et c'est quelque chose qui dépasse le cadre des violences et du harcèlement sexiste et sexuel, et qui concerne toutes les populations discriminées. Je trouve ça marrant que tu nous aies rencontrés au quart de tour, parce que justement, on est présent en festival et on parle de ces questions-là en festival, parce que le festival ou un lieu de concert, un lieu festif, c'est typiquement un espace semi-public, ce qu'on n'a pas forcément défini, mais un espace semi-public comme un festival ou un concert où c'est pas public, c'est pas ouvert à tous parce que chacun a payé sa place, ou encore un bar, c'est des endroits qui sont semi-publics, où il s'applique encore ces schémas de domination avec des personnes qui vont se sentir mal à l'aise ou des personnes qui vont recevoir de la discrimination et des personnes qui vont se permettre certains comportements déplacés, voire pénalement répréhensibles. Que l'association Stop Harcèlement de Rue soit présente dans des espaces semi-publics tels que les festivals, c'est significatif de tout ce qui englobe justement notre domaine d'action, puisque le harcèlement de rue, ça évoque ce que c'est par simplement son nom, harcèlement de rue. On parle aussi des lieux semi-publics, et le festival en est une belle illustration. Puisque justement, dans des lieux semi-publics tels que les festivals, on peut retrouver, comme tu l'as évoqué, des cas de soumission chimique, des cas de frotteurs, ce genre de choses, ce qui est plus difficile dans la rue, mais des choses qu'on peut retrouver par exemple dans les transports en commun. Et transports en commun, pareil, on considère que c'est du semi-public, justement pareil, puisqu'il s'agit d'endroits où des comportements de harcèlement et d'agression se retrouvent également.
L'école ou l'entreprise, vous les classez comment ? Public, semi-public ?
Je dirais plutôt privé. Privé, même si dans ces endroits-là, d'autres mécanismes de harcèlement sont à l'œuvre. En effet, il y a des choses spécifiques, tu l'as évoqué dans ton introduction, au harcèlement scolaire, au harcèlement au travail, des choses qui doucement prennent place dans la tête des gens et dans les préoccupations. parce qu'en effet, il y a des mécanismes de harcèlement, voire d'emprise, qui sont spécifiques à le dispositif de l'école. Voilà, c'est l'école, il y a un groupe classe avec des enseignants qui représentent un peu l'institution. Tout ça est très spécifique et il y a d'autres spécificités dans le milieu du travail. C'est pour ça que j'ai considéré plus comme espace privé. Dans les espaces publics, en effet, il n'y a plus tellement d'institutions, il y a juste un système, un continuum, comme tu l'as évoqué, oppressif pour les personnes discriminées, où là, c'est un peu chacun pour soi.
Avant de poursuivre autour du harcèlement de rue, on vous propose maintenant une première respiration musicale, une sélection de Milou.
Alors je propose « Trottoir » de Louisa Donna, qui est une chanson qui parle de harcèlement de rue, qui est un hymne, je trouve, contre tous les mecs qui se croient vraiment tout permis dans la rue, et le rythme plutôt cool.
Trottoir, Louisa Donna, avant de retrouver nos 4M, Marilyn, Marie, Merlin et Milou, de Stop Harcèlement de Rue. Harcèlement de rue, un phénomène qui, hélas, peut aussi être instrumentalisé à des fins politiques douteuses. Dans les médias, il y a eu une époque où on parlait de harcèlement de rue, mais alors c'était très malencontreux parce que dans les sujets dont je me souviens dans les journaux télévisés, c'était certains types de populations qui étaient visées. Il était question de femmes qui ne pouvaient plus fréquenter certains quartiers parisiens et les images montraient des personnes racisées, à peau pas blanche et avec ce discours médiatique assez nauséabond en fait qui disait bah, « Vous voyez, le harcèlement de rue, c'est pas nos blancs, hein, c'est ces gens pas de chez nous et qui n'ont pas la même couleur de peau qui se conduisent très mal avec les femmes. » Or, peu importe la couleur de peau, Marilyn.
Alors justement, au sujet du profil type du harceleur de rue, les témoignages que nous recevons ainsi que notre expérience personnelle en tant que militante nous montrent que le harceleur de rue est pluriel. Il n'a ni apparence, ni appartenance religieuse, ni appartenance ethnique réelle ou supposée qui ne ressorte plus qu'une autre. Affirmer le contraire est faux et relève souvent d'un biais de confirmation. Concernant le genre des personnes coupables de harcèlement ou agression dans l'espace public, des études montrent qu'il s'agit plus souvent d'un homme. Notre association, à chacun de ces événements publics, propose aux personnes d'épingler sur une carte les lieux publics où elles ont subi du harcèlement ou une agression pour la dernière fois. Donc c'est une petite carte qu'on a mise sur un panneau de Liège, donc, qui représente la ville de Tours, et puis les gens mettent une petite punaise sur la rue où ils ou elles ont subi du harcèlement de rue.
Est-ce que cette carte révèle qu'il y a des lieux qui sont plus propices au harcèlement que d'autres ?
Forcément, ce sont les lieux où il y a le plus de passages, les lieux où il y a les bars, les lieux les plus fréquentés. Par exemple, le Vieux Tours, c'est clairement un endroit où il y a le plus de harcèlement, puisque c'est là qu'on va retrouver les bars, les restaurants et la vie nocturne.
Cette question-là de qui sont les harceleurs, elle est très importante, elle revient vraiment beaucoup. On nous la pose souvent, les personnes aussi qui viennent nous voir en stand viennent aussi poser cette question de temps en temps, avec des fois une idée derrière la tête. En fait, c'est une idée qui est assez politiquement et puis éthiquement évidemment embêtante, dans le sens où la vraie question derrière sous-jacente, on la connaît. C'est est-ce qu'on ne devrait pas mettre les immigrés dehors ? Nous, on répond non évidemment à cette question-là. La plupart du temps, les gens oublient qu'il y a quand même une partie des harceleurs qui est littéralement un groupe de personnes qui sont des hommes blancs, souvent d'extrême droite ou très de droite, qui sont des masculinistes, qui ont littéralement des vidéos où ils expliquent aux jeunes hommes à, je mets des guillemets mais on ne les voit pas, draguer dans la rue. C'est une culture du viol qui est très 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 forte, où ils vont aller expliquer aux jeunes hommes que si les femmes dans la rue, elles leur disent non, on a le droit de dire des gros mots.
Oui.
C'est des salopes. Je fais les guillemets depuis tout à l'heure, je fais les petits lapins. Et que du coup, elles leur doivent des choses, elles leur doivent un accord, que si elles disent non, c'est vraiment pas cool pour eux. Enfin, c'est assez grave comme propos également. Et là, vraiment, on est empreint de culture du viol. Et ces mêmes personnes qui vont derrière théoriser vraiment des choses d'extrême droite assez graves, qui vont écrire des bouquins hein, dessus carrément, faire payer des formations... Ces personnes vont faire des sous-entendus, voire des propos carrément, sur le fait que si les femmes, elles disent non dans la rue, ça peut notamment être parce qu'il y a des hommes d'origine étrangère qui vont prendre le pas, qui vont, entre guillemets, hein, toujours, je rapporte les propos qui ne sont absolument pas les miens, nous piquer les Françaises. Et c'est quand même un discours qui est, encore une fois, je répète ce mot, mais qui est grave. Et quand on nous pose cette question derrière, il y a aussi d'autres choses comme ça sous-jacentes.
Cela dit, il n'y a pas que dans les milieux de fachos, de faves, d'extrême droite, qu'il y a des comportements patriarcaux, dominants, débiles. Voilà, ça se fait très bien à gauche aussi.
Alors oui, il y en a vraiment partout. Là, c'était vraiment pour rappeler le fait que la plupart du temps, les personnes qui vont sous-entendre des origines étrangères majoritaires ou harceleurs de rue vont avoir une idée derrière la tête. Le harceleur de rue, il est partout, c'est vraiment tout le monde, y compris nos potes, y compris les miens. Hein. J'ai déjà vu des potes à moi vraiment faire ça. Enfin, c'est tout le monde, y compris à gauche, ouais.
Alors, que faire si l'on est victime de harcèlement de rue ? En consultant le site très bien conçu de Stop Harcèlement de rue, on trouve de nombreuses ressources, et notamment cette série de conseils que Rosane va vous lire.
Comment réagir ?
Ignorer.
Ignorer. Si vous ne vous sentez pas en sécurité, ignorez la personne qui vous harcèle et éloignez-vous ou réfugiez-vous dans un endroit sûr, magasin, restaurant.
Confronter.
Confronter. Répliquez calmement et fermement. Ne me sifflez pas, c'est du harcèlement. Décrivez. Vous me touchez les fesses, puis affirmez votre désaccord.
Répliquez avec humour.
Répliquez avec humour. Utilisez l'humour ou le sarcasme. Dites à la personne qui vous harcèle que vous êtes en train de faire une enquête sur le harcèlement de rue et commencez à lui poser des questions. Vous le faites souvent ? Comment choisissez-vous les personnes que vous harcelez ? Le faites-vous seul ou avec vos amis ?
Interpellez.
Interpellez. Mobilisez les passants, les passantes ou passagers, passagères. Notamment en désignant une personne en particulier et en lui donnant une tâche à effectuer. Par exemple, appeler la police.
Documentez.
Documentez. Réunissez toutes les preuves que vous pouvez, filmer, noter, en confrontant ou sans être vu, pour fournir à la police si vous souhaitez engager des poursuites par la suite.
Toujours avec Marilyn, Marie, Merlin et Milou de Stop Harcèlement de rue, une association relativement jeune, Milou.
L'association, en fait, au tout démarrage, c'était un collectif créé par trois personnes qui s'appellent Héloïse, Cécile et Daniel, on les salue, qui ont... en fait, fait une première action avec quelques autres personnes militantes en 2014, le 25 mars. En fait, c'était à Paris, c'était près de la place de la Bastille, et elles ont distribué des flyers sur le HDR, sur le harcèlement de rue, en indiquant dessus comment on peut réagir, notamment quand on est témoin de harcèlement de rue. Il y avait aussi une invitation à écrire des témoignages sur des ardoises qui étaient mises à disposition, où l'idée de ces témoignages, c'est que les personnes peuvent déjà se défouler en écrivant ce qu'elles ont vécu, en injuriant leur harceleur si elles le souhaitent. Ça permet aussi de faire lire ces témoignages à des personnes qui ne vivent pas ou peu de harcèlement de rue ou différemment, et qui puissent se rendre compte vraiment de l'ampleur du phénomène. Et en fait, l'objectif initial de ce collectif, à ce moment-là, c'était de créer ce qu'ils appelaient des zones sans relou. C'est un peu l'ancêtre, en fait, du dispositif Angela, dont on parlera, je pense. Puis ça a un petit peu évolué, évidemment, depuis. En fait, en 2015, ces personnes ont créé plutôt une association, parce que dans plusieurs villes de France, plusieurs autres collectifs, spontanément, en fait, s'étaient créés. Et il y a eu un rapprochement de plusieurs de ces collectifs, une grosse assemblée générale. Et l'association a été créée comme un réseau, en fait, mais sous format bien association, loi 1901. Et depuis, elle a pas mal évolué, mais on a toujours cet esprit d'antenne indépendante, où il y a un comité de pilotage composé de plusieurs personnes, ça peut aller de 3 à 20 en théorie, qui est élu chaque année en assemblée générale avec toutes les antennes, qui va piloter, disons, la partie pas fun de l'association, à savoir la charge administrative, mais aussi d'autres parties fun, comme des projets communs plutôt au niveau national, certaines revendications, etc. Et en fait, ce comité de pilotage va donc encadrer un petit peu l'activité des antennes, juste pour vérifier que ça respecte notre charte, que personne dit des trucs horribles, etc. Et dans l'idée, après, chaque antenne fait exactement ce qu'elle souhaite en termes d'action. Alors, chaque antenne définit un petit peu ses champs d'action, ses préférences aussi en fonction des personnes qui y sont. Des antennes où c'est quasiment que des interventions scolaires, parce que c'est leur truc. Il y a des antennes comme Tours où il y a un peu de tout. Enfin voilà, c'est assez varié.
Parlons un peu de l'antenne de Tours. Donc nous avons créé l'antenne de Tours en 2016. C'est l'antenne la plus active de France. On se congratule un petit peu au passage. En 2020, nous avons créé une association entre guillemets jumelle qui s'appelle MeTour afin de porter le dispositif Angela, ce qui nous permettait d'obtenir des subventions. Puis en 2022, nous avons fusionné MeTour et Stop Harcèlement de Rue pour faire vraiment qu'une seule association au total.
Qu'est-ce que c'était MeTour ?
MeTour, en fait, ça a été une association de loi 1901 également. En fait, à ce moment-là, on avait besoin de subventions pour le dispositif Angela, parce que ça coûte un petit peu, et que nous, en fait, on ne voulait pas tout mettre de notre poche non plus. Sauf que pour obtenir une subvention, quand on est simplement une antenne et pas l'association, disons, maison-mère, c'est long. C'est faisable, hein, mais c'est long. On avait une subvention de la région et une subvention de la municipalité de Tours, et ça bloquait notamment à ce niveau-là. Et MeTour nous a permis, en fait, de créer cet asso qui allait obtenir cette subvention et donc porter ce projet Angela. On dit association jumelle parce qu'en fait, la plupart des membres étaient aussi à Stop Harcèlement de Rue, évidemment. Et on a fusionné ensuite en expliquant la situation à la ville qui nous a pas du tout posé de soucis avec ça. Et maintenant, les subventions sont bien obtenues pour l'antenne de Tours pour porter le dispositif Angela.
On le rappelle, le dispositif Angela est donc une sorte de label visant à signaler des lieux safe de la ville de Tours, comme certains bars. On en reparlera au prochain épisode. Mais des actions Stop Harcèlement de Rue en mènent un peu partout en France. Combien y a-t-il d'antennes sur tout le territoire métropolitain de Stop Harcèlement de Rue ? Et est-ce que vous avez une idée du nombre d'adhérents en rente ?
Alors ça varie énormément, déjà parce qu'on a beaucoup de bénévoles qui sont en fait en études, qui donc s'engagent 1 an, 2 ans, 3, qui après partent dans la vie active et n'ont pas forcément le temps de rester dans l'association. Parce qu'on a vraiment ce fonctionnement d'antenne autonome, ce qui fait qu'il faut porter des projets quand on est dans une antenne. Donc il faut être quand même disponible et puis motivé, bien qu'il y ait des personnes qui font moins de choses et c'est tout à fait normal. Donc ça bouge beaucoup chaque année. Actuellement, on a une trentaine ou une quarantaine de personnes sur le territoire. Et après, le nombre d'antennes, actuellement, il y en a 3 qui sont actives. On est monté à 10, 15... Ça dépend vraiment beaucoup, en fait, chaque année. Et n'importe qui peut ouvrir une antenne. Alors, n'importe qui, il faut mieux être au moins 2 ou 3. Mais à tout moment, on va avoir des antennes qui vont se créer. Et puis d'autres qui vont se dissoudre momentanément parce qu'il n'y a juste plus personne à ce moment-là. Et puis ça revient un petit peu plus tard. C'est un cycle qui a toujours fonctionné comme ça. Voilà, en ce moment, c'est un peu plus calme en termes d'antennes, mais pas mal au niveau du nombre de bénévoles par antenne, au final.
On va en venir à vos actions, à ce que vous faites. Alors, je sais déjà que, par exemple, l'antenne de Tours assure des permanences au Festival au Quart de Tour, puisqu'on s'est rencontrés comme ça, Marilyn, l'an dernier.
Tout à fait.
Qui bravait des hordes de festivaliers stoïques derrière son bureau, à distribuer de la doc, discuter avec des gens. Donc à part des permanences dans des lieux festifs, qu'est-ce que vous faites d'autre ?
Majoritairement, on fait de la sensibilisation sur des actions de rue, en milieu scolaire avec des interventions pour alerter et informer sur le harcèlement de rue. On fait donc de la prévention grâce à des guides, grâce à des outils qu'on met en place et au dispositif Angela, donc pour diminuer l'impact du harcèlement de rue. Et aussi via des revendications, manifestations, interpellations du gouvernement, des institutions, des analyses et partenariats avec des chercheuses pour stopper le harcèlement de rue et agir à long terme. Donc plus concrètement, ça peut être de la distribution de flyers, donc dans la rue, avec des passants et passantes pour discuter avec les gens du phénomène du harcèlement de rue, les sensibiliser. Notamment, on peut distribuer des flyers sur comment réagir en tant que témoin, que faire si je suis victime et ne pas être un harceleur. Et également, on peut les proposer auprès de commerces ou institutions pour que ça soit mis à disposition des usagers. Ça peut être aussi donc des stands dans la rue pour sensibiliser les passants et passantes sur la thématique du harcèlement de rue, avec divers supports, donc le mur de la honte, les témoignages, des documents. Récemment, on a mis en place la pêche au canard. Le même principe que la pêche au canard, et dessus, on a collé la tête de harceleurs, de personnalités publiques en tout cas, ont été mis en cause dans diverses affaires. Et on a le jeu de société Paye ta rue qui est sur le même principe qu'un Monopoly, sauf que ce sont des cases où les gens peuvent répondre à des questions sur le harcèlement de rue. On peut aussi donc tenir, on en a parlé tout à l'heure, des stands lors d'événements, qu'on parlait d'au quart de tour. On est aussi sur le festival Terre du Son, par exemple. Donc les milieux festivaliers où on fait aussi de la prévention et aussi sur la soumission chimique. Mais ça reste le même principe que le stand de rue. Et on a donc le dispositif Angela. On met en place des formations auprès de gérants, gérantes, personnels de bars partenaires pour créer dans la ville un réseau Angela et qui deviennent des bars et des lieux safe pour les victimes de harcèlement de rue avec des personnes qui sauront comment réagir. Et concernant les interventions, donc on fait des interventions notamment dans les établissements scolaires ou auprès de publics adultes. Donc le but, c'est de sensibiliser sur le phénomène du harcèlement de rue à travers l'éducation. Donc les interventions, elles permettent aux victimes potentielles de connaître leurs droits, aussi de savoir comment réagir, vers qui se tourner, savoir qu'ils ne sont pas seuls et que leur ressenti est légitime. Les interventions, elles permettent aussi à toute personne qui pourrait être un agresseur potentiel de comprendre que son comportement, il est problématique et que c'est pas acceptable, comprendre les répercussions que ça a sur les victimes. Souvent, nos interventions, elles se déroulent en plusieurs temps. Il y a un temps collectif durant lequel on invite chacun et chacune à donner sa définition du harcèlement de rue pour ouvrir un petit peu le débat et savoir ce que c'est le public à propos du harcèlement de rue. Ensuite, en sous-groupe, on propose des ateliers toujours autour de la réflexion et proposer des solutions. Et on essaye que nos ateliers soient sous un format ludique, donc avec le paye ta rue. Souvent, en groupe aussi, on propose des phrases et des situations et on demande au groupe si ça relève du harcèlement de rue ou de l'interaction et si pour eux, c'est des comportements qui sont acceptables ou non, ou dérangeants ou non. Voilà, ça ouvre le débat également. On a aussi un petit jeu de cartes qu'on met en place plus récemment où chaque personne du groupe est une personne, donc souvent une personne racisée ou une personne avec un handicap, etc. Et on propose des phrases également et si la personne se reconnaît, elle avance. Et le but, c'est de montrer que souvent les personnes minorisées ont plus de chances de subir du harcèlement. C'est le jeu des privilèges et souvent on conclut... Donc avec la méthode des 5D, on en reparlera aussi, qui est une méthode pour les témoins de comment réagir face à du harcèlement de rue.
De ce que tu disais, Marie, tout à l'heure, dans votre champ d'intervention, c'est avec petits et grands, de l'école jusqu'à des lieux où on trouve des adultes, que ce soit le travail ou le monde festif, etc. Quand il y a une intervention en milieu scolaire, comment vous abordez le truc ?
Eh bien, la semaine dernière, nous étions au lycée Baillet pour la BFest et donc nous avons rencontré des adolescents, des lycéens, Et donc, on commence simplement par leur poser des petites questions. Quelle définition, eux, ils donnent du harcèlement de rue? On les encourage en leur disant, il n'y a pas de mauvaise réponse, allez-y, n'hésitez pas à parler. Et peu à peu, la parole se lâche, et ils commencent à donner leurs petites idées. Et après, on note tout ça au tableau. Et après, on en refait une synthèse tous ensemble. Et après, c'est la partie atelier. En sachant qu'on fait des sous-groupes pour les ateliers, des fois. Après, chaque groupe tourne sur tous les ateliers. Comme ça, y a pas, on fait un atelier, mais pas les autres. Donc, tout le monde fait tous les ateliers. Et ensuite, on fait une restitution collective et on les remercie pour leur attention.
Okay. L'idée dans les interventions scolaires, c'est de faire parler les jeunes autour de ce qu'ils savent et de leur apprendre plus de choses quand ils ressortent de notre intervention. C'est aussi de leur faire prendre conscience, peut-être qu'eux-mêmes ont vécu du harcèlement de rue sans le savoir, et concrètement, comment eux, ils peuvent agir contre ça à leur niveau, savoir si à un moment donné, ils se sont retrouvés dans une position où ils ne savaient pas comment réagir, ou eux-mêmes ont subi du harcèlement et ne savaient pas vers qui se tourner. Et voilà, leur faire prendre conscience concrètement des choses à faire ou à ne pas faire en fonction de la place qu'ils avaient dans cette situation de harcèlement. Voilà, on essaie que ce soit assez ludique pour qu'ils y voient un réel intérêt et voilà, que ça soit pas ennuyant du début jusqu'à la fin. Proposer des définitions, etc. C'est pas ce qui marche le mieux avec un public adolescent.
Quand on tient des stands dans la rue, mais dans les festivals aussi, on se rend compte qu'en fait, il y a beaucoup de jeunes qui viennent nous voir, notamment de très jeunes. Et en fait, on se rend compte, certes au travers des études, mais au travers de notre expérience de recueil de témoignages et d'accueil de la parole des victimes, que le harcèlement de rue, ça commence dès le collège, notamment pour les jeunes filles. Les jeunes filles subissent du harcèlement dans l'espace public dès très jeunes. Et la plupart du temps, c'est pas des mecs de leur âge qui les font chier dans la rue, clairement. On a une autre problématique bien plus large derrière. Donc il faut très rapidement, en fait, pouvoir faire de la prévention à leur niveau et de la sensibilisation pour leur montrer que déjà, elles sont pas seules. Là, je vais genre au féminin, parce que la plupart du temps, ça va être des jeunes femmes quand on est sur cet âge-là. En majorité, ce qui veut pas dire que c'est uniquement des femmes. Elles se sentent moins seules et qu'elles comprennent que c'est pas normal, qu'elles ont le droit d'être en colère, qu'elles ont le droit d'avoir peur, qu'elles ont le droit d'être choquées, traumatisées, etc. Que c'est légitime, que leurs réactions, elles sont légitimes et qu'on peut être là, nous, pour les accompagner. Auquel cas, nous, bien sûr, on fait pas d'accompagnement psy, ni juridique, par ailleurs. Nous, on va faire un accompagnement, on va orienter vers des associations, des structures, voir si nécessaire, on peut aller jusqu'à accompagner sur un dépôt de plainte. C'est déjà arrivé quand les personnes avaient personne autour d'elles pour les accompagner. Et donc, on crée, en fait, ces ateliers qui sont à destination de tout type de public et on adapte à chaque tranche d'âge ce qu'on va proposer, ce qu'on va faire avec. Et de la même manière, on adapte nos outils aussi. On a sur nos stands, vous pouvez voir si vous venez, qu'on a beaucoup de livrets, de petits guides, de flyers, etc. Et en fait, il y a un peu pour tout le monde. Et aussi sur notre jeu de société, le Paye ta rue dont Marie a parlé, qui est un super jeu que vous devriez absolument essayer. On a une version qui est en cours de travail pour un jeune public, qui pourrait être intéressante aussi, parce que parfois les questions peuvent être quand même un peu rudes en termes de thématiques abordées. L'idée, c'était aussi d'adapter ces outils-là.
Pour rebondir sur ce que tu as dit, Milou, effectivement, moi, dans mon cadre professionnel, je travaille avec des adolescentes et des adolescents. Et rapidement, ce qui m'a marqué et choqué, c'est à quel point les adolescentes avec qui je travaille subissent du harcèlement de rue et ont déjà intériorisé et banalisé ce harcèlement et ont pu en parler avec moi comme quelque chose de normal et qui les interpellait même pas. Et effectivement, c'est une majorité de jeunes filles collégiennes dès le collège qui peuvent m'en parler sans que ça ne les interpelle.
Pour rebondir au fait d'intervenir auprès d'un jeune public, c'est aussi prendre conscience de ce que l'on vit, des violences que l'on subit, et c'est aussi remettre les choses à sa place dans un contexte où ça ne va pas toujours être aux victimes de se protéger, mais ça va aussi être aux harceleurs de prendre conscience qu'ils harcèlent, de prendre conscience que leurs comportements sont déplacés, de prendre conscience que dans telle situation, en ayant telle parole ou tel comportement, on ne respecte pas la liberté de chacun et de chacune dans l'espace public. Et ça, justement, lorsqu'on parle de harcèlement de rue dans l'association, on est amené aussi à souligner, faire remarquer que la plupart des politiques, souvent, de prévention du harcèlement de rue concernent un peu trop les victimes et pas assez les harceleurs. En fait, on considère que c'est très bien d'organiser des cours de self-défense ou de distribuer en festival des protections pour mettre sur son verre. Mais souvent, ces genres d'actions de prévention concernent les victimes et invitent les victimes à davantage être vigilantes, se protéger, adopter tel ou tel comportement. Il s'agit surtout, pour lutter contre le harcèlement de rue, de faire prendre conscience aux harceleurs qu'ils harcèlent, de leur faire prendre conscience des moments où ils outrepassent la liberté des victimes, justement, et de leur dire d'arrêter, et de leur proposer d'autres manières de se comporter et d'autres manières d'agir pour que la charge ne soit pas toujours à la victime de se protéger du harcèlement de rue.
Une pause musicale dans cette conversation avec les 4M des Stop Harcèlement de rue. Marilyn, c'est toi qui t'y colle ?
J'ai choisi Rebel Girls de Bikini Kills parce que je viens du punk rock. Et en plus, c'est une chanson féministe qui envoie du lourd au niveau du texte et qui envoie une énergie folle au niveau de la musique. Alors allez-y là, faites du bruit.
Rebel Girl, Bikini Kill, avant de retrouver nos 4M, Marilyn, Marie, Merlin, Milou, de l'association Stop Harcèlement de Rue. Prendre conscience qu'on a des comportements pas toujours adaptés. Vous parliez d'un outil tout à l'heure, d'une brochure, là, c'est quoi ? C'est sous forme de questionnaire, en fait. Suis-je un gros relou ? Il y a deux cases, oui, non. Quelles peuvent être ces questions pour cerner ?
Alors effectivement, on a un petit outil qui s'appelle « Je ne suis pas un harceleur, petit guide à destination des gens bien ». Parce que très souvent, les harceleurs vont dire « Mais non, moi, jamais ». D'ailleurs, ce petit outil est en cours de retravail et en 2025, on sortira la nouvelle version, améliorée. Mais l'idée de ce petit flyer, c'est pas de poser des questions de « Si je fais ça, je suis un harceleur, oui, non », parce que c'est pas aussi binaire. Parfois, il y a aussi une limite un peu floue, quoi. Il peut y avoir, tout comme il y a un vide juridique, il y a une petite zone grise. Donc, ce petit flyer invite plutôt à se questionner sur ses propres comportements, à se remettre en question, quand on le peut, et va plutôt donner quelques règles générales. Je vous en donne quelques-unes. C'est respecter l'espace personnel, par exemple. On focus un petit peu sur la différence entre drague et harcèlement, parce que c'est quelque chose qui revient beaucoup. Quand on parle harcèlement de rue, encore une fois, c'est très hétéronormé, donc on pense beaucoup harcèlement sexuel et sexiste, même s'il y a d'autres types de harcèlement de rue. mais sur cette question-là de la différence entre la drague et le harcèlement qui revient énormément aussi, notamment des hommes qui viennent nous voir au stand et qui disent « on peut plus draguer ». Et en fait, on parle beaucoup de consentement. Donc, si on respecte l'espace personnel de la personne qu'on souhaite aborder, exemple, situation typique, on est dans un bar, on voit une personne qui nous plaît au comptoir et puis on aimerait bien lui proposer une petite discussion et plus si affinité, ce qui est tout à fait légitime et très chouette. Et bien en fait, si on fait en sorte de ne pas la déranger, de respecter son espace personnel, qu'on est prêt à accepter un refus de façon polie et correcte, qu'on ne va pas insister et qu'on laisse cette possibilité ouverte de refus, en fait, on n'est pas un harceleur, c'est cool, on est quelqu'un de sympa et juste on propose dans un espace qui est pas dédié à ça, mais qui est beaucoup plus légitime que la rue et je vais vite au travail en marchant et on m'interpelle, et bah, c'est quelque chose qui est tout à fait OK.
Ah, ouais. Catherine Deneuve sera contente, alors.
Ah, ouais, ouais. On la salue. Ou pas. D'autres petits conseils de type ne commentez pas les tenues des gens à haute voix dans la rue. C'est des choses qui sont évidentes et pourtant, ça m'arrive assez souvent quand même qu'on commente ma tenue dans la rue. En bien comme en mal, alors c'est sûr, c'est plus sympa en bien, sauf quand ça me sexualise à outrance et que j'ai rien demandé, quoi. Voilà, donc quelques petits exemples comme ça qu'on peut lire. On invite les personnes qui le souhaitent à prendre ce petit flyer et à venir le lire en cachette s'ils le souhaitent, mais à le lire dans tous les cas.
En effet, souvent les personnes concernées vont plutôt lire ça en cachette. Il s'agit pour aussi prendre conscience qu'on peut harceler, qu'on peut avoir des comportements déplacés, il faut surtout faire preuve de beaucoup d'humilité, de reconnaître que des fois on outrepasse les libertés des autres. Et c'est un peu l'ambiance qu'on donne sur nos interventions, surtout en festival ou en milieu festif comme ça. On est là pour dénoncer, critiquer, faire en sorte que le harcèlement de rue s'arrête. On est là aussi pour faire de la pédagogie, puisque les personnes discriminées ne sont pas toujours disposées à expliquer, à raconter ce qu'elles vivent, à dire pourquoi c'est gênant, à proposer des solutions. L'association, c'est aussi un espace pédagogique pour que les personnes harcelées prennent conscience qu'elles harcèlent. Alors ça nécessite de venir au stand avec justement une démarche un petit peu humble, justement, reconnaître qu'on peut être harceleur à son tour. En contrepartie, nous, on essaie d'instaurer une ambiance où on peut parler, on peut témoigner des fois où on a harcelé, des fois où on s'est mal comporté. Et voilà, on n'est pas un tribunal. Bien qu'on ait des militants et des militantes, on ne va lyncher personne si les gens viennent nous voir. On est là pour éduquer, puisque souvent, on demande aux personnes discriminées ou harcelées de le faire. Chacune n'a pas forcément la disposition ni l'énergie pour le faire. Il existe des associations comme la nôtre pour justement faire ça dans les milieux appropriés.
Bah en fait, on va aller voir ce que dit ce texte que l'on trouve sur le site de Stop Harcèlement de Rue. Rosaine.
Questionnez votre propre comportement. Peut-être un jour, avez-vous adopté un comportement de harcèlement ? Sifflement, klaxon, interpellation, remarque inappropriée à une personne que vous avez croisée dans la rue ? Faites une rétrospective de vos attitudes et mesurez leur impact sur les personnes qui l'ont subi. Quelle a été leur réaction ? Pourquoi ai-je agi ainsi ? Comment savoir si je harcèle ? Il y a une grande différence entre la drague et le harcèlement. Cette différence réside dans le consentement. Si vous abordez une personne dans l'espace public, dans la rue, dans un bar, soyez attentif ou attentive à son comportement. Si elle vous répond « non, je ne suis pas intéressée, je suis pressée, j'ai un copain, une copine », c'est qu'elle ne souhaite pas entamer la discussion. Respectez son choix et n'insistez pas. De même, si la personne ne vous répond pas, ne vous rend pas votre regard, si elle s'éloigne, met ses écouteurs, regarde son portable, ne l'interpellez pas, ne la sifflez pas, ne la klaxonnez pas, ne la dévisagez pas. Ces attitudes peuvent mettre la personne dans l'inconfort et l'insécurité. Elle se sent réduite à un objet sexuel et ne sera certainement pas encline à répondre. Il faut comprendre que l'espace public est un lieu utilisable librement par tous et toutes. Chacun et chacune peut y circuler en toute autonomie sans devoir s'arrêter pour devenir un objet de séduction. Bien sûr, certaines personnes acceptent sans problème d'être draguées par des inconnus, mais d'autres non. Si la personne exprime son désaccord, il faut respecter ce droit.
J'ai un petit cas pratique à vous proposer, j'en parlais avec les établis récemment. Je suis un mec cis, blanc, quinquagénaire, middle class, donc qui respire des privilèges depuis sa naissance sans s'en rendre compte. Et revenons au quart de tour. C'est le mois de juin, c'est une belle après-midi. Ça annonce les vacances, et au quart de tour, ouais, bah, c'est un peu comme si c'était déjà un peu la plage. Je suis un mec. Et bah bien sûr que je me mets torse nu, sans à aucun moment me demander si d'autres personnes ont envie de voir la moitié de mon corps dénudé. Et mon amoureuse m'a fait remarquer que c'était pas ok, et que de toute façon c'est illégal, que dans l'espace public, sauf à la plage, on n'a pas le droit de se mettre torse nu. Donc voilà, la question elle est même réglée dans le texte. Et ça m'a tout à fait saisi parce que, je vous en fais l'aveu, c'est systémique, c'est le continuum, tu dis. Enfin, il aura fallu qu'on me fasse remarquer que non, en fait, à moitié se dénuder, c'est pas ok comme comportement. Ben, ça m'avait jamais traversé l'esprit, dit dedans. Donc le harcèlement, ça peut aussi, avant même le verbal, avant même le contact physique, le harcèlement, ça peut aussi bêtement être ça. Je montre des parties de mon corps qui n'ont pas forcément à être montrées dans l'espace public.
Bah en vrai, c'est un débat. Hein. À titre très personnel, je parle pas du tout au nom de l'asso, moi je suis pas du tout contre les gens qui se dénudent en public. C'est très personnel, encore une fois, parce que le corps, la nature, c'est cool. Par contre, moi je peux pas le faire. Parce que si moi je me mets torse nu au festival ou n'importe où, même des fois à la plage, étant donné que j'ai des seins, pas ouf, mais j'ai des seins. Hein. Et ils sont quand même un tout petit peu plus gros les miens, enfin je crois. En tout cas, étant donné que je suis bien perçue comme un corps féminin, tu disais que c'était illégal, le policier aura même pas le temps de me mettre une amende, que j'aurais déjà vécu des agressions, des injures, du harcèlement, voire agression sexuelle, juste parce que j'aurais mis mes tétons à l'air. Enfin, je trouve que le débat, il est aussi sur cet écart entre les corps masculins et féminins, parce que là, on parle de ça, perçu dans la société, et ce qu'on peut faire ou pas avec, où moi, il suffit que je mette un short pour me faire quand même insulter, parce que j'ai montré trop de parties de mon corps. Bon, moi, j'ai pas de débat sur où est-ce que ça s'arrête, où est-ce que ça commence l'exhibition, je ne sais pas. C'est pas des questions que je me suis énormément posées de façon personnelle. Moi, ce que je relève surtout, c'est la différence de traitement entre les hommes et les femmes, notamment entre, en tout cas, les corps perçus masculins et les corps perçus comme féminins dans l'espace public.
Non, mais c'est un cas pratique qui illustre ce qu'on peut appeler un double standard. Double standard, grosso modo, s'il fallait le définir, c'est qu'un même comportement va être perçu différemment si c'est un comportement adopté par une femme ou si c'est un comportement adopté par un homme. Souvent, pour illustrer ce que c'est le double standard, on parle du nombre de partenaires sexuels. Un homme qui a beaucoup de partenaires sexuels, il va être félicité, il va
c'est
être...
Don Juan.
C'est un don Juan, c'est ça. Une femme qui a beaucoup de partenaires sexuels, ça va être une salope, ça va être une fille de peu de vertu, etc. Là, on est dans un cas pratique de double standard, c'est-à-dire se dénuder et typiquement se mettre torse nu. Pour un homme, oh bah, on va le trouver cool, décontracté ou super à l'aise, ou wow, il est en train de s'éclater devant la scène, devant un concert. Et une femme, ça va forcément être perçu comme une invitation à des rapports sexuels, ou à être touchée, ou à une invitation à une séduction. Bah, en fait, dans le double standard, il y a donc deux standards, et c'est pas évident de savoir quel standard est le bon et quel standard devrait être privilégié par rapport à l'autre. Ce qui est problématique dans le double standard, c'est justement qu'il y en ait deux qui existent et qui persistent, et que souvent l'un est favorisé, encouragé, et l'autre est mal perçu, presque interdit ou réprimé. Pour le cas pratique de se mettre torse nu, bah justement, ça va être à la liberté de chacun, à l'appréciation de chacun, de dire s'il faut se cacher ou montrer son corps. L'idée parfaite, ce serait que chacun puisse faire comme il veut ou comme elle veut. Mais en l'occurrence, bah, concrètement, chacun ne peut pas faire comme il veut, comme elle veut. Des corps perçus comme féminins vont vraiment être emmerdés si elles se mettent torse nu. Idéalement, ce serait seulement une question d'aisance avec son propre corps. Collectivement, socialement, c'est pas une question simplement de ça, c'est aussi une question de perception et de sexisme, en fait. Et c'est plus ça qui est à critiquer dans le double standard, c'est le fait qu'il existe deux standards.
Ça n'a pas de rapport direct avec tout ce qu'on vient de se dire, mais pour maintenant faire une petite pause, j'ai très envie de partager avec vous mon gros coup de cœur musical du moment. Trois copines, Virginie, Sacha et Marine, qui ont récemment monté un génial groupe baptisé Kermess, dont je vous propose maintenant un titre.
Come sign
Compilation of Men, ce vivifiant trio de meufs s'appelle Care Mess. Care comme le Caire et Mess comme le bazar. Care Mess, il serait bien possible que vous en entendiez encore parler. Cette émission touche bientôt à sa fin, mais avant de nous quitter, il serait peut-être intéressant de consulter la charte éditée par le Festival au quart de tour et que Rosen va nous lire.
Charte anti-relou d'au quart de tour. Au quart de tour, festival organisé par Radio Béton, est un événement festif, convivial, créateur de liens sociaux et surtout inclusif, ouvert et accueillant. Au quart de tour souhaite donc s'engager davantage pour la prévention et la sensibilisation des violences sexistes et sexuelles en milieu festif. C'est pour cela que nous réaffirmons par cette charte nos valeurs afin que chacun, chacune, puisse profiter du festival librement.
Gère ton espace.
Gère ton espace. Ça veut dire ne pas se frotter aux gens, y compris quand ils ou elles dansent, ne pas occuper tout l'espace pour danser, ne pas pousser toutes les personnes qui ont le malheur de t'entourer pendant le concert, gérer ses boissons, clopes, et ne pas les déverser sur les personnes alentour pendant le concert.
Vérifie le consentement.
Si une personne dit non, arrête. Ou si une personne n'est pas clairement capable d'exprimer un oui ou un non, arrête.
Garde ta drogue.
L'usage de la drogue est un choix personnel. Ne fais pas consommer de drogue, seringues, verres, etc., à des personnes qui n'ont pas clairement exprimé leur consentement.
Prends soin des autres.
Si tu aperçois une personne inconsciente ou avec un comportement problématique, assure-toi que personne n'est en danger. Tu peux appliquer la règle des 5 D. 1. Intervenir auprès de l'agresseur ou à l'agresseuse. 2. Distraire l'agresseur ou l'agresseuse. 3. Demander de l'aide. 4. Écouter et accompagner la victime. 5. Fournir des preuves de l'agression.
Ne sois pas harceleur.
Être bourré ne justifie pas tout comportement. Ne harcèle pas les festivaliers ou festivalières ni nos bénévoles. C'est valable quand le festival ferme. Ne harcèle pas les bénévoles du bar pour avoir une dernière bière.
Ne fais pas de commentaires discriminants.
Ça signifie pas de commentaires sur le handicap, sur la maladie, sur le physique, le poids ou la façon de s'habiller. De commentaires racistes, sexistes, transphobes, etc.
Etc. Et voilà les amis, c'est ici que prend fin la première partie de cette conversation avec les 4M, qu'on retrouvera au prochain épisode de cette série autour des VHSS, violence, harcèlement sexiste et sexuel, où vos invités vous expliqueront que Stop Harcèlement de Rue ne fait pas que du travail de terrain, mais aussi du travail législatif avec des politiques, députés et autres. On verra ça la prochaine fois. En attendant, vous pouvez réécouter cette série sur notre site polémix-et-la-voix-off.com. Ce n'est qu'un combat, continuons le début. Salut.